Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous, et c'est avec un immense plaisir que j'accueille aujourd'hui l'un des auteurs de la rentrée littéraire qui nous offre un nouveau roman de toute beauté, déjà sélectionné d'ailleurs dans la première liste du prix Goncourt. Bonjour David Diop.
Bonjour.
Nous allons dans un instant parler de cette fiction parue aux éditions du Seuil sous le titre « La porte du voyage sans retour ». En référence au lieu d'où partaient les esclaves de l'île de Gorée au Sénégal vers l'Amérique. Mais pour commencer, un mot sur votre précédent roman, Frères d'âme, paru en 2018, multiprimé et qui continue de connaître toujours un grand succès, d'autant qu'il a reçu il y a quelques semaines le célèbre International Booker Prize pour sa traduction en langue anglaise, une récompense remportée pour la première fois par un écrivain français. Vous, donc, tandis que Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, le recommandait sur sa liste de lectures estivales. Comment vivez-vous ce plébiscite désormais international, David Diop ?
Je le dois à ma traductrice, Anna Moskovakis, qui est une écrivaine américaine et qui écrit des romans et qui est poète. Et donc la qualité de sa traduction est assez grande pour que je reçoive ce prix. Et j'en suis extrêmement heureux parce que ça étend le champ de mes lecteurs. Et je vais pouvoir peut-être aussi rencontrer des lecteurs qui, n'ayant pas lu le texte en français, ont été touchés par lui grâce à la traduction d'Anna Moskovakis.
Et la mention de Barack Obama, ça flatte un peu l'ego, non?
Oui, c'est vraiment extraordinaire de savoir que Barack Obama a apprécié ce livre. Alors, flatter l'ego, je ne sais pas. Moi, je considère que c'est une chance de pouvoir être remarqué par des personnages célèbres, mais en même temps, les lecteurs qui viennent vous voir et qui vous disent « voilà, votre livre m'a fait penser à ceci, cela », ou qui vous montrent des documents pour vous expliquer que leurs grands-parents ont accueilli ou recueilli ou caché des tirailleurs sénégalais pendant la guerre, mais ça me touche tout autant.
Effectivement, c'était le sujet de ce roman, Frères d'âme. Alors d'ailleurs, comment le livre a-t-il été reçu au Sénégal ?
Alors il a été très bien reçu, l'accueil a été très positif, et puis j'ai reçu aussi des lettres et des messages de lecteurs du Sénégal qui m'ont vraiment fait chaud au cœur.
Vous-même, David Diop, vous n'avez pas pu aller à Dakar pour accompagner la sortie du livre ?
Non, la dernière fois que je suis allé au Sénégal, c'était en 2018, au début de l'année. Donc, depuis lors, non, je ne suis pas retourné au Sénégal.
En tout cas, c'est la reconnaissance de votre travail d'écrivain. C'est aussi la reconnaissance d'une grande histoire, celle oubliée des combattants dits tirailleurs sénégalais qui sont allés sur le front de la Première Guerre mondiale aux côtés des soldats français. Alors cette exploration du passé, vous la poursuivez, David Diop, dans ce nouveau roman. Là, nous sommes au XVIIIe siècle, période dont vous êtes spécialiste comme chercheur et universitaire dans le domaine de la littérature, plus exactement. Et là, vous écrivez une fiction qui prend pour point de départ la vie d'un homme qui a réellement existé, Michel Adanson, un scientifique botaniste qui, dans les années 1750, a vécu au Sénégal, un voyage sur lequel il a écrit, vous nous raconterez, et qu'ici, vous faites parler à la première personne. Mmh. Est-ce que vous voulez bien nous lire cet extrait David Diop où il se présente ? Nous sommes page 53.
J'ai quitté Paris pour l'île de Saint-Louis du Sénégal à l'âge de 23 ans. Comme d'autres en poésie ou d'autres encore dans les finances ou la politique, je voulais me faire un nom dans la science botanique. Mais, pour une raison que je ne soupçonnais pas malgré son évidence, il ne s'est pas passé ce que j'avais prévu. J'ai fait ce voyage au Sénégal pour découvrir des plantes et j'y ai rencontré des hommes. Nous sommes les fruits de notre éducation et comme tous ceux qui m'avaient décrit l'ordre du monde, j'ai cru de bonne foi que ce qu'il m'avait expliqué de la sauvagerie des nègres était vrai. Pourquoi aurais-je mis en doute la parole de maîtres que je respectais, héritiers eux-mêmes de maîtres qui leur avaient assuré que les nègres étaient incultes et cruels ? La religion catholique, dont j'ai failli devenir un serviteur, enseigne que les nègres sont naturellement esclaves. Toutefois, si les nègres sont esclaves, je sais parfaitement qu'ils ne le sont pas par décret divin, mais bien parce qu'il convient de le penser pour continuer de les vendre sans remords. Je suis donc parti au Sénégal à la recherche des plantes, des fleurs, des coquillages et des arbres qu'aucun autre savant européen n'avait décrit jusqu'alors, et j'y ai rencontré des souffrances. Les habitants du Sénégal ne nous sont pas moins inconnus que la nature qui les environne. Pourtant, nous croyons les connaître assez pour prétendre qu'ils nous sont naturellement inférieurs. Est-ce parce qu'ils nous ont paru pauvres la première fois que nous les avons rencontrés, il y a bientôt 3 siècles de cela ? Est-ce parce qu'ils n'ont pas éprouvé la nécessité, comme nous, de construire des palais de pierre résistant au flot des générations qui passent ? Pouvons-nous les juger inférieurs parce qu'ils n'ont pas construit des bateaux transatlantiques ? Il se peut que ces raisons expliquent que nous ne les estimions pas nos égaux, mais chacune d'entre elles est fausse.
Merci beaucoup pour cette lecture, David Diop, extraite de ce nouveau roman « La porte du voyage sans retour », où là, vous prêtez votre plume à ce personnage, ce Français. Comment est-ce que vous avez découvert l'existence et quand aussi peut-être de Michel Adanson, et pourquoi d'ailleurs son expérience du Sénégal vous a-t-elle intéressé plus que d'autres ?
Alors, en tant qu'enseignant-chercheur, je travaille sur les représentations européennes de l'Afrique depuis 15 années. Et si je travaille sur ce sujet, c'est grâce à Michel Adanson, je pense, parce que j'ai lu pour la première fois son voyage au Sénégal, qui est daté de 1757 et qui a été publié à Paris. Et j'ai été tout de suite frappé par l'originalité de son regard sur les Africains et sur le milieu dans lequel il avait évolué pendant 4 ans, hein, ou 5 ans, de 1749 à 1754. C'est un savant, c'est un jeune savant, c'est un homme qui fait l'épreuve de son corps pour rencontrer autrui. Il expérimente, on est au siècle des Lumières, donc pour lui, il faut éprouver les choses pour en parler. Et donc, il a goûté à la nourriture, il a appris le wolof.
Ça, c'est très important, en
effet. Oui, voilà, il a appris le wolof. Pourquoi ? Parce que il s'est rendu compte que les truchements ou les traducteurs de l'époque n'étaient pas capables de traduire ce que certaines personnes au Sénégal, qu'il avait repéré dans le nord du Sénégal, disaient des plantes. Et donc, il s'est dit, je vais apprendre le wolof, et grâce à cette connaissance, je pourrai parler directement avec eux pour connaître la propriété des plantes. Et moi, j'ai trouvé que c'était une démarche qui allait vers un savoir local, africain, qui était assez étonnante. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à lui. Mais je n'ai travaillé dans un premier temps que sur ses imprimés. Et il y a un historien qui s'appelle Ousmane Seydi, qui était doctorant à l'époque, qui a passé sa thèse à l'université de Bâle, qui est venu me voir à Pau et qui m'a dit « Monsieur Diop, j'ai lu votre travail, c'est très intéressant, mais il manque des choses ». Je lui ai dit « Ah bon, comment ?» Et il m'a dit « Moi, je suis allé au Muséum d'Histoire Naturelle et j'ai vu les brouillons de Michel Adanson ». Et ces brouillons sont donc au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, dans des caisses. Ils ont été déjà étudiés par des universitaires français tout à fait respectables qui ont écrit des thèses sur Michel Adanson. Mais la particularité d'Ousmane Seydi, c'est que lui comprend et évidemment lit ce qu'Adanson a écrit en wolof. Et Michel Adanson avait en effet, alors que ça n'apparaît pas du tout dans son récit de voyage imprimé, recueilli des contes, des légendes, et toute une série, finalement, de connaissances rassemblées dans ce qu'il appelle un dictionnaire français wolof. Mais il n'y a pas qu'un dictionnaire, il y a aussi toutes ces références culturelles-là qui sont extraordinaires. Alors là, moi, ça a mis en route mon imagination d'écrivain. Et j'ai pensé écrire une sorte de voyage secret de Michel Adanson à partir justement de ce que Ousmane Seydi m'avait donné et m'avait raconté de ce qu'il avait trouvé dans les papiers et les brouillons d'Adanson.
Et c'est ainsi que vous faites le portrait d'un homme très singulier, cultivé bien sûr, misanthrope beaucoup, mais qui est aussi le produit de son pays, de son époque, de sa culture. ici colonialiste, esclavagiste, et cela nous ramène néanmoins à la traite des peuples noirs. Et on y arrive de plein pied quand Adanson, qui encore une fois est beaucoup plus passionné lui par la flore qu'il compte d'ailleurs recenser dans une encyclopédie de 120 tomes, c'est dire l'ambition de l'homme, il se trouve rattrapé par l'histoire de son époque et du pays, par un mystère, le mystère d'une jeune femme disparue en forêt 3 ans auparavant, considérée soit morte ou vendue aux esclavagistes, et dont la rumeur dit qu'elle est revenue. Et là, il est fasciné par cette légende, presque, et il décide d'aller vérifier sur place, dans le village très éloigné où elle est censée être, si effectivement elle existe. Elle s'appelle Maram, c'est un prénom palindrome,
oui,
qu'on peut lire dans les deux sens. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès ou pas.
Oui.
En tout cas, je me demandais, David Diop, ce qu'elle incarnait pour vous, cette revenante. Est-ce que c'est aussi le rêve de millions de personnes qui ont espéré le retour de celles et ceux qui leur ont été arrachés?
Oui, oui, on n'imagine pas, enfin, si, peut-être que la littérature nous permet de nous projeter dans ces angoisses de ces personnes qui ont été arrachées à leur terre et qui espéraient toujours y revenir. Oui, c'est là un rêve, mais ça a été une réalité pour quelques-uns. Dans mes études, j'ai trouvé qu'un prince, fils d'un roi, donc d'un roi d'un royaume qui se trouvait vers la Gambie, hein, qui se trouve actuellement au centre du Sénégal, avait été pris comme esclave et avait été envoyé aux États-Unis. Et il avait été esclave au Maryland, dans le Maryland. Je crois que c'est dans le premier tiers du XVIIIe siècle. Et il avait été finalement, il a eu la chance de rencontrer un maître qui l'a amené à Londres, avec lequel il s'est suffisamment bien entendu et bien expliqué pour être renvoyé donc en Gambie. Et c'est un revenant, donc il est revenu. Donc il y a des exemples assez rares, mais qui existent, de ce retour en fait. Mais c'est une utopie, c'est un rêve.
Que nous permet la littérature, que vous permet la littérature aussi.
Oui, oui, la littérature permet d'imaginer des retours impossibles, d'imaginer des retours de la mort à la vie. Un peu comme le mythe d'Orphée et d'Eurydice que j'ai choisi de mettre en exergue au début de La Porte du Voyage sans retour.
Alors si vous voulez bien, David Diop, justement, je vous propose d'écouter un extrait de cet opéra de Gluck, Orphée et Eurydice. Je ne sais pas s'il y a un chant en particulier, un morceau de l'opéra qui vous touche le plus, c'est le moment,
oui,
de le dire.
Oui, c'est la danse des ombres heureuses avec cette flûte qui est accompagnée de cordes. C'est le moment où Orphée arrive aux enfers, aux Champs-Élysées, et il voit Eurydice.
Thank you.
Et sur cet extrait de l'opéra de Gluck, Orphée et Eurydice, nous reprenons dans Littérature sans frontières sur RFI notre conversation avec David Diop autour de ce nouveau roman intitulé « La porte du voyage, son retour » ou « Les cahiers secrets » de Michel Adanson en sous-titre, paru aux éditions du Seuil. Un roman, on l'a dit, qui se déroule au milieu du XVIIIe siècle, au Sénégal, que découvre un scientifique français, d'abord fasciné par la nature, mais qui va se prendre d'affection, en particulier pour deux personnes. Ndiak, un jeune garçon qui va le seconder, et donc Maram, une survivante, une combattante, dont il va tomber amoureux et qu'il va essayer de sauver. Alors, c'est un homme qu'on voit se métamorphoser au cours de votre écriture, David Diop, malgré lui d'ailleurs. Et pourtant, en même temps, ici, aucun de vos personnages n'est ni complètement bon, ni complètement mauvais. Tous faillissent à un moment, trahissent. Est-ce que le défi aussi de ce roman était de rendre compte d'une vérité humaine et historique qui ne serait pas binaire, David Diop ?
Pour moi, c'est pas un défi. C'est plus simple de renvoyer à la complexité des êtres. Je disais tout à l'heure que je les plaçais dans des systèmes qui n'existent plus, en principe, en tout cas, et où ils se démènent, où ils se débattent, partagés entre leurs idéaux. En tout cas, ça peut être le cas de Michel Adanson, qui était un philosophe des Lumières. Il a participé à la rédaction de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, un temps. Et la réalité extrêmement violente et cruelle de l'esclavage. Pourtant, on est au siècle des Lumières, un siècle où on a des idées extrêmement généreuses, et puis il y a cette réalité-là qui tourmente beaucoup de philosophes. Alors, Michel Adanson, pas vraiment. Il est ambigu de ce point de vue-là, et c'est cette ambiguïté, cette complexité qui m'intéresse, puisque la littérature, de ce fait, elle est plus proche d'une vie, pour moi, qui n'est pas ni tout à fait noire, ni tout à fait blanche, mais dans les nuances. Et donc, ce processus de placer des personnages archétypaux dans des postures polémiques, c'est plus simple en fait. Ça crée des antagonismes et ça simplifie la complexité et les problèmes. Alors que moi je pense que grâce à la littérature, on peut rentrer dans les dilemmes, dans les hésitations, les erreurs ou la grandeur ou la petitesse de gens qui ne sont pas faits d'une pièce.
Et par exemple, pour illustrer ce que vous venez de dire, David Diop, quand Michel Adanson va finir par retrouver Maram et qu'elle va lui faire le récit de son enlèvement, donc vendu par son propre parent, son oncle, emmené prisonnière jusqu'au navire pour partir par des hommes de son village, soigné et nourri par une femme de son pays. On entend bien que ce sont les siens aussi qui ont participé à l'esclavage, que les oppresseurs sont autant les Français que les Sénégalais, d'une certaine façon. Est-ce que c'est toujours un sujet tabou, David Diop, ou pas ?
Alors, en tout cas, d'après les informations historiques que j'ai prises, les universitaires et les historiens de l'université Charente Diop de Dakar, qui se sont penchés sur la question, ne se font aucune illusion. Et vous explique très bien que les élites des royaumes du Sénégal, parce qu'il y avait plusieurs royaumes à cette époque-là, eh bien, il serait étonnant que pendant 4 siècles, il n'ait pas participé d'une manière ou d'une autre
à
l'esclave ou qu'il n'ait pas su. Ça, c'est une aberration. C'est même une insulte, finalement, à leur lucidité politique. Donc, je pense qu'il y a eu toute une série, d'après ce que j'ai lu, de situations qui ont fait que aussi les Français, les Européens d'une manière générale, se sont servis des antagonismes qui existaient entre ces royaumes pour favoriser leurs affaires, hein, surtout en vendant des armes à feu. Mais ce que Ousmane Seydi, qui est donc ce jeune historien dont je vous ai parlé tout à l'heure, rappelle avec justesse, c'est que nous ne sommes pas dans une période coloniale, nous sommes dans une période pré-coloniale. Et les Français et les Européens, d'une manière générale, ne maîtrisent pas les royaumes qui se trouvent au Sénégal. Le royaume du Kayor, du Wallo, le royaume du Djolof et d'autres royaumes, ce sont des royaumes avec lesquels ils négocient. On n'est pas encore dans la période coloniale du 19e siècle où il y a une sorte de mise en coupe réglée de l'espace par des voies de communication. D'ailleurs, l'Adior Gonay Latirfal, qui est considéré comme le plus grand résistant au Sénégal, refuse le chemin de fer. Mais on n'en est pas encore là au 18e siècle. Donc il y a des accords, des négociations. Et ces négociations-là, eh bien, elles touchent tous ces royaumes qui ont en effet participé au commerce des esclaves pour aussi se défendre les uns des autres.
Et donc ça, il faut l'écrire.
Mais moi, je l'écris parce que j'ai envie que mon personnage, mes personnages surgissent d'un contexte qui me paraisse à moi-même au moment où je l'écris plausible ou en tout cas qui renvoie une forme de vérité historique. Je ne dis pas que c'est la vérité historique, mais en tout cas, c'est la façon dont moi j'ai rencontré ces personnages-là dans leur contexte qui m'intéresse aussi.
Avec l'idée à moyen ou long terme que ce soit reconnu aussi par les générations d'aujourd'hui?
Je ne sais pas. Moi, je dis que l'histoire doit expliquer, mais la littérature n'a pas nécessairement à être didactique. Je pense que la littérature peut émouvoir et l'histoire explique dans un second temps. Ceux qui sont intéressés par le contexte dans lequel je situe mes personnages, eh bien, ils iront voir et puis s'instruire.
Non, voilà, c'est dans ce contexte géographique, historique, politique, économique que se joue votre roman David Diop, qui est d'abord une grande histoire d'amour, impossible, entre deux personnes, mais qui néanmoins existe. Est-ce qu'il y a une forme de métaphore à lire entre les lignes de ce roman, David Diop?
La Porte du voyage sans retour, c'est aussi une histoire de transmission entre un père et sa fille. Donc, il n'y a pas qu'une géographie africaine dans La Porte du voyage sans retour, il y a une géographie aussi française. Il y a un processus, il y a un voyage initiatique de la fille qui va découvrir dans un tiroir caché le manuscrit que son père lui a laissé, ce voyage secret qui est vraiment une fiction. Et donc, j'ai voulu aussi peut-être montrer que dans La Porte du voyage sans retour, il y avait des histoires d'amour en parallèle qui traçaient notre humanité ou qui la soudaient tout entière, indépendamment des lieux. Et puis, deux géographies, deux parcours de deux personnages vers finalement leur destin.
Cette transmission, en effet, c'est la transmission d'une mémoire, c'est la transmission d'une histoire, d'une culture, du monde invisible aussi. Avec, par exemple, ce don de guérir qui se lègue d'une femme à l'autre. Vous aussi, vous transmettez, David Diop, par la littérature, ce que vous avez appris?
Alors, oui, mais l'objectif, ce n'est pas d'enseigner, d'être didactique. C'est vraiment d'essayer de, finalement, faire circuler des émotions. Ce qui m'intéresse, c'est une sorte de transversalité des émotions. Parce que, comme j'ai deux sensibilités culturelles, à travers l'écriture, j'arrive à les conjoindre, à les concilier. Et c'est ça aussi que je veux montrer, c'est que, dans le fond, la transmission, elle se fait aussi par l'entremêlement d'affects qui peuvent être sembler extrêmement éloignés les uns des autres, mais qui sont peut-être reliables grâce à la fiction.
C'est aussi un roman qui pose la question de l'art dans la transmission. Par exemple, Michel Adanson, quand il revient en France, on a l'impression qu'il a tout oublié. Peut-être que le traumatisme a été si fort qu'il a fermé la porte. Mais néanmoins, par la musique, par un tableau, vont s'ouvrir à nouveau son cœur, son esprit. Et comme si aussi les arts avait cette faculté de tout réveiller, de tout susciter. Est-ce que c'est le cas aussi par la littérature? Parce qu'en l'occurrence, ici, il s'agit plutôt vraiment de musique et d'un tableau. Mais les livres aussi participent à ça.
Oui, oui, tout à fait, je le pense. Je pense que un livre peut ouvrir une porte intérieure et éclairer des endroits extrêmement sombres et qui sont de ce fait mis en lumière et qui permettent à peut-être à chacun de se voir vraiment. Donc oui, alors j'ai parlé de la musique. Michel Adanson adorait, et ça c'est avéré, on a trouvé ça dans ses papiers, dans les témoignages, il adorait cet opéra de Gluck, Orphée et Eurydice. Et c'est très étrange parce que moi quand j'étais petit, ma mère écoutait au Sénégal, elle écoutait cet opéra-là.
En particulier
un des opéras qu'elle écoutait, c'était celui-là, Orphée et Eurydice. Et ce petit morceau qu'on a écouté tout à l'heure, cet extrait, je le connais depuis que je suis tout petit. Et je me suis rendu compte que, eh bien, Michel Adanson, d'après les témoignages qui sont donnés, pleurait à chaudes larmes en écoutant ce morceau, cet extrait-là. Et c'est très bizarre comment, justement, des émotions peuvent traverser les siècles et on peut être touché par les mêmes choses. Et je me suis demandé, en écrivant La Porte du Voyage sans mot, mais pourquoi Michel Adanson pleurait en écoutant cet extrait?
Parce que vous ne pleurez pas?
Moi, je pleure, mais je pleure pas comme un homme du XVIIIe siècle.
C'est quoi la différence?
Il y a une émotion, une sensibilité qui est peut-être différente. Je ne pleure pas en écoutant. Je suis très ému, mais je ne pleure pas. Mais Michel Adanson, les témoignages indiquent qu'il pleurait à chaudes larmes. Donc ça, c'est un des éléments que j'ai pris pour finalement agrémenter mon personnage. Mais la question, je me la pose toujours, pourquoi pleure-t-il? Eh bien, j'ai réussi, peut-être, dans La Porte du Voyage sans retour, à inventer la raison pour laquelle il pleure. Michel Adanson, en écoutant Orphée et Eurydice, c'est peut-être l'histoire de son amour impossible et son amour perdu avec Maram.
Et dans le récit, à proprement parler, de sa rencontre avec Maram, il dit, c'est ce que je traduis de notre conversation en Wolof. Visiblement, c'était difficile de traduire du Wolof au français. Vous confirmez, David Diop?
Moi, ma langue d'écrivain, c'est le français. Et c'est ma langue maternelle. Ma langue paternelle, c'est le Wolof. Je ne l'ai pas apprise aussi bien et je ne la maîtrise pas aussi bien que le français. Donc, je ne pourrais pas écrire un roman en Wolof. Je peux parler pour dire des choses assez simples, mais je ne peux pas écrire en Wolof. Mais je sais que chaque langue a une énergie. Donc, comme Michel Adanson, dans ses papiers, là, c'est d'une donnée historique objective, dit que le Wolof lui paraît une langue extrêmement belle et riche. À partir de là, je me suis autorisé à faire dire à mon personnage que, eh bien, il ne pouvait pas faire autre chose qu'inventer d'une certaine manière l'histoire de Maram ou la réinventer, parce qu'il ne se souvenait pas exactement de ces formules qui condensaient une image, une situation, et qui, de fait, était intraduisible.
Donc, c'est un peu une mise en abîme, cette écriture en français du souvenir d'un récit en Wolof qui, en fait, n'a pas existé, et vous jouez avec tous les codes littéraires, David Diop.
Oui, c'est un jeu. Oui, j'aime bien jouer avec tous ces codes littéraires, dont une partie appartient au XVIIIe siècle, d'ailleurs. L'histoire du manuscrit caché, qu'on retrouve, ça fait partie vraiment de ces codes d'écriture. Aussi, les histoires enchâssées, le récit dans un récit, ça aussi, ça fait partie de la tradition du roman au XVIIIe siècle. Donc, j'aime bien jouer avec tous ces codes-là, parce que ça permet, en fait, aussi d'associer, de concilier l'oral et l'écrit. Puisque Michel Adanson écrit ce qui lui a été dit à l'oral, le transforme d'une certaine manière. Puis peut-être aussi, et c'est en ce sens-là qu'il devient écrivain, invente l'histoire de Maram.
Et ce pour notre plus grand plaisir, parce que cette lecture nous enchante. Pas une seconde, on s'arrête, on est emporté avec vous. Et c'est toute la réussite de ce très beau roman. Merci beaucoup David Diop.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle le titre de ce nouveau roman que vous publiez, La Porte du Voyage sans retour, et c'est aux éditions du Seuil.
Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.